Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tout ce qu'on a déjà pu vivre, tous les témoignages, la présentation du travail de Respérance. Et j'aimerais commencer ce temps d'exhortation par un visionnage d'une vieille publicité. On va voir si ça fonctionne. Je laisse la technique mettre ça en place. Qui se souvient de cette pub? Ok, donc on voit bien la génération des quarantenaires. Elle date d'il y a presque 30 ans. Donc voilà, elle est devenue un peu culte. Moi, je l'aimais bien. Donc on voit Valérie Lemercier qui reçoit chez elle pour un repas des amis, puis qui, au moment du dessert, va présenter le super bon gâteau comme étant sa propre réalisation, alors qu'en fait, elle a juste sorti du congélateur et elle l'a laissé décongeler. En fait, elle s'attribue des mérites qui ne lui reviennent pas. Donc là, c'est une publicité qui montre sur un ton humoristique, un peu outrancier, une tendance qui peut exister quand même en chacun de nous, qui est la tendance à oublier. Donc ici, c'était volontaire, parfois c'est involontaire. D'où vient ce que l'on possède? Et parfois, on oublie que ce qui est à notre disposition, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Et le verset sur lequel on va méditer ce matin, il a été écrit par l'apôtre Paul avec pour objectif de rappeler aux chrétiens qui étaient réunis, qui vivaient dans la ville de Corinthe, qu'il était important de ne pas se tromper soi-même, de ne pas se faire d'illusions sur soi-même. Alors Paul connaît très bien les chrétiens de Corinthe à qui il écrit, parce qu'il a vécu dans cette ville pendant un an et demi, il a fondé l'église de Corinthe, et on estime que l'église de Corinthe avait à peu près une trentaine, 30 à 40 personnes, donc plus petite que notre église ici à Vendeuvre, au moment où en tout cas Paul écrit cette lettre. Paul quitte la ville de Corinthe en septembre 51 de notre ère, et il va y revenir, mais pendant plusieurs années il n'y revient pas, mais il garde des contacts, parce que Paul avait tout un réseau d'amis, de collaborateurs, Apollos, Timothée, qui sont allés à Corinthe et puis qui ont rapporté à Paul des nouvelles qui l'inquiétaient un petit peu. Donc Paul écrit une première lettre qu'on a perdue. On le voit dans 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre, mais sauf que voilà, on ne sait pas ce qu'il a écrit dans cette première lettre. Et les Corinthiens, on est en 54 à peu près, envoient une délégation. Il y a trois membres de l'Église qui vont à Éphèse, donc de l'autre côté de la mer Égée, si vous voyez un peu, si vous maîtrisez votre géographie. Ils vont voir Paul avec une lettre de l'Église où il pose un certain nombre de questions. Si vous voyez à la fin de Corinthiens, quand il y a le chapitre sur les dons la partie sur les dons spirituels, le 1 Corinthiens 13 sur l'amour, tout ça, c'est des réponses que Paul apporte à des questions. 1 Corinthiens 7, au sujet de ce que vous m'avez écrit. Voilà, il pose des questions. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles? Est-ce qu'il vaut mieux être célibataire ou est-ce qu'il vaut mieux se marier? C'est quoi le meilleur don spirituel? Et Paul leur répond. Et c'est cette deuxième lettre qu'on a conservée dans nos Bibles. Alors si vous avez déjà lu la lettre que Paul écrit aux Corinthiens, vous avez sans doute noté que le ton est un peu sévère. Paul a plusieurs reproches à faire à l'église de Corinthe et à la quarantaine de chrétiens qui se réunissent à Corinthe. Il y a des sujets de tension entre Paul et les chrétiens. Les chrétiens sont parfois remontés contre Paul, on pourrait dire. Et Paul, lui, va se défendre et va aussi rappeler plusieurs éléments importants dans cette lettre. Et parmi ces vérités, il y en a une qui joue un rôle central au début de l'épître, de cette lettre, et c'est ce verset-là qu'on va lire. C'est 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, qu'on va afficher. En fait, c'est trois questions. En effet, donc Paul s'adresse à tous les chrétiens de Corinthe. Qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu ? Paul veut donner une nouvelle perspective, une juste perspective aux Corinthiens sur leur situation. Il leur rappelle ce qu'ils sont. Il leur rappelle que ce qu'ils ont, c'est un cadeau immérité de la part de Dieu. En langage biblique, ce cadeau immérité, on appelle ça la grâce. Paul affirme que dans la vie des croyants, des enfants de Dieu, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est le fruit de la grâce de Dieu envers nous. Alors, quelles sont les conséquences concrètes ? Quelles sont les attitudes qui peuvent être suscitées dans ma vie par cette affirmation que tout dans la vie du croyant est un fruit de la grâce de Dieu ? Et je pense que les trois questions de Paul nous orientent vers trois attitudes. L'humilité, la gratitude et l'aspiration. Je vais essayer de vous en parler maintenant. Première question, qu'est-ce qui te distingue ? Pour parler familièrement, ici, Paul, il essaye de faire dégonfler les chevilles des Corinthiens. Alors, pour ceux qui ne sont pas francophones, on a une expression en français qui dit avoir les chevilles enflées, gonflées, c'est quand on se croit un petit peu supérieur aux autres. Paul veut ramener les Corinthiens sur terre. Il dénonce les rivalités qu'ils avaient entre eux, leur désir de se mettre en valeur, d'affirmer leur supériorité. En français, il y a deux mots qu'on n'utilise plus trop pour caractériser cette attitude, la suffisance et la présomption. Voilà. Je ne sais pas si vous utilisez ces mots quand vous parlez avec les gens, mais c'est vraiment ces termes-là. Ils sont suffisants, ils sont présomptueux. Et Paul leur pose cette question, mais qui est-ce qui te distingue ? Alors les habitants de Corinthe, ils avaient objectivement des raisons d'être un peu fiers, d'être, ils n'habitaient pas dans une ville perdue au fin fond de l'Empire romain. Non, Corinthe était une grande ville, une ville commerciale, une ville qui était située en plus à un nœud de voies de communication très important. Une ville qui attirait beaucoup de monde. Et il se trouve que la semaine dernière, on est rentré hier avec Sylviane, on était en Grèce, on a visité jeudi après-midi le site de Corinthe, le site antique de Corinthe. Et ce qui reste, on peut vous montrer une... Voilà, il reste des champs de ruines, pour ceux qui ont déjà visité des ruines romaines en Italie ou ailleurs. C'est un champ de ruines, on a parfois du mal à imaginer, mais rien qu'avec les ruines que l'on observe, on imagine l'opulence de la ville. Là, c'est une des voies romaines, etc. Pour contrer l'orgueil des Corinthiens, Paul va leur rappeler une vérité forte dans cette lettre. On va lire ensemble, au tout début de la lettre, 1 Corinthiens, donc au chapitre 1, les versets 26 à 29, qu'on va afficher. Considérez, frères et sœurs, il s'adresse à ses frères, à ses sœurs dans la foi, considérez votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Donc parmi les 30-40 chrétiens de la ville de Corinthe, il y avait peu de riches, de sages. Il y en avait quelques-uns, parce qu'on sait que c'est une des sources de tension dans l'église de Corinthe. On savait qu'aussi un certain Gaius pouvait accueillir l'église chez lui. Donc pour accueillir 30-40 personnes chez soi, il fallait déjà avoir une maison d'une certaine taille. Mais ils n'étaient pas très nombreux. Pas de gens influents, des personnes insignifiantes et faibles, pour reprendre les termes de Paul. Des moins que rien aux yeux de la société. Mais ces moins que rien ont été appelés par Dieu. Ils ont été choisis par Dieu. À la question « qui est-ce qui te distingue ?», c'est Dieu. Ce n'est pas leur propre qualité. Ils ont été appelés à rejoindre le peuple de Dieu, à devenir ses enfants. Ce n'est pas eux qui ont trouvé Dieu eux-mêmes, c'est Dieu qui les a appelés. Un autre endroit où on est appelé, on utilise cette expression « un tel a été appelé », c'est quand on parle des matchs de l'équipe de France. Didier Deschamps, le sélectionneur, a appelé un tel pour rejoindre l'équipe. Il choisit les joueurs qu'il veut, le sélectionneur de l'équipe de France. C'est sa décision souveraine. Et parfois, les choix qu'il fait peuvent surprendre. Alors, je sais que Daniel n'est pas là, Désiré non plus, mais il y a peut-être quand même des fans de foot. Ceux qui suivent un peu l'actualité de l'équipe de France savent qu'il y a un débat ces derniers mois pour savoir quels doivent être les meilleurs attaquants de l'équipe de France. Est-ce que ça doit être Olivier Giroud ou Karim Benzema, pour avoir le numéro 10, en gros? Est-ce que ça doit être Olivier Giroud, qui ne joue pas beaucoup avec son club en Angleterre? On va afficher les statistiques, là. Allez, Olivier Giroud, c'est 5 matchs. 5 matchs. Pas beaucoup, 0 but avec son équipe. Karim Benzema, c'est 22 matchs avec le Real de Madrid, quand même, la meilleure équipe du monde. Et 4 buts. Et pourtant, alors il y a ceux qui ont suivi, il y a d'autres raisons, mais pourtant, c'est Olivier Giroud qui est appelé en équipe de France. Alors que les statistiques sont quand même sans appel. Et ça marche plutôt bien, en plus. Et moi, je suis assez content, hein, j'aime bien Olivier Giroud. Mais voilà, le sélectionneur est souverain, il choisit d'appeler qui il souhaite, même si ça peut parfois défier, aux yeux de certains commentateurs, c'est pas raisonnable. Alors, on peut les enlever. Hein. Être appelé dans le peuple de Dieu, c'est le choix de Dieu, c'est lui qui a l'initiative. Et c'est pas sur la base de notre valeur personnelle, de nos capacités, de notre naissance, de notre richesse, qu'on est devenu chrétien, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous les enfants de Dieu. Et l'échelle de valeur de Dieu est très différente de celle du monde. C'est ce que dit Paul lorsqu'il leur dit de se regarder eux-mêmes. De dire, mais regardez, Dieu, il vous a choisi pour montrer sa puissance et sa grâce. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Je pense que c'est en grande partie pour nous enlever toute prétention à venir avec lui, devant lui, avec des choses à lui apporter dans nos mains. Et parfois, c'est un combat hein, dans nos vies de rendre les armes face à Dieu, de dire que foncièrement, on est incapable d'agir par nos propres forces d'une manière qui lui plaise. Accepter d'être impuissant, c'est vraiment contre nature. Et c'est difficile. Et je lisais récemment cette phrase, anonyme, hein, je ne sais pas qui est l'auteur de cette phrase, qui dit « Satan ne chuchote pas à ton oreille, crois en moi ». Mais il chuchote à ton oreille, crois en toi. Hein. Crois en toi, en tes propres forces, en tes propres capacités. C'est une des manières que l'adversaire a de nous faire dévier du chemin que voudrait qu'on devrait suivre. C'est difficile d'éteindre les étincelles d'orgueil dans notre cœur, mais c'est libérateur parce que ça laisse complètement la place à la grâce de Dieu. Avant d'aborder la deuxième question posée par Paul, c'est important, je pense, de rappeler régulièrement quand on parle d'humilité qu'il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est l'attitude de cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu, qui reconnaît sa toute-puissance. Et c'est différent de l'humiliation. On n'a pas besoin d'être humilié, on n'a pas besoin d'humilier les autres. L'humiliation, c'est un rabaissement, une dévalorisation avec une intention malveillante. Ce n'est pas ce que fait Paul ici. Il n'est pas en train de leur dire « vous êtes vraiment super nuls », mais il est en train de vous dire « ne vous faites pas d'illusions sur vous-même. Acceptez votre place face à Dieu. » Deuxième question de Paul. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et là, la réponse implicite, puisqu'il y a une troisième question dans laquelle il dit si, « puisque tu n'as rien reçu, donc la réponse c'est rien. Tu n'as rien qui ne t'a pas été donné. Tu n'as rien que tu n'as pas reçu, tu n'as rien gagné par toi-même. » Et si on réfléchit, notre vie, notre famille, nos capacités intellectuelles, notre cadre de vie, nos capacités manuelles, nos capacités artistiques, nos capacités relationnelles, notre santé, notre travail, la liste serait longue, hein, de ce qu'on a et qu'on a reçu. Ce sont des cadeaux de Dieu, des signes de sa grâce. Et si nous avons tout reçu de Dieu, de manière imméritée, alors c'est notre reconnaissance, notre gratitude qui doit être stimulée. Et Paul montre l'exemple aux Corinthiens d'une attitude reconnaissante, toujours dans cette même lettre, au chapitre 1, les versets 4 à 7. On affiche. « Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Je vous ai dit, c'est une lettre qui est plutôt sévère à l'égard de l'Église de Corinthe. Et ce n'est pas évident, et les relations dans les années suivantes, dans les 2-3 années qui ont suivi avec l'Église de Corinthe, a été compliquée. Paul a été mis en accusation par certains membres de l'Église. Et pourtant, même si les circonstances ne sont pas très favorables, Paul est lucide et il reconnaît l'action de Dieu dans la vie des chrétiens, et il est reconnaissant pour cette action. Il remercie Dieu, il est reconnaissant pour les biens matériels, les biens spirituels ici, non pas matériels, que Dieu déverse sur l'Église de Corinthe. Je pense que tous ceux qui sont parents ici essayent d'enseigner ou de faire comprendre à leurs enfants l'importance de la politesse, de dire merci quand on reçoit quelque chose. Donc ça, c'est déjà une première étape intéressante. Et l'étape suivante, c'est l'apprentissage de la gratitude. Que ce merci soit pas juste quelque chose d'obligé, tu as dit merci, ouais, mais que ça vienne spontanément, une gratitude lorsqu'on reçoit un cadeau. Et aujourd'hui, en tout cas en Occident, il y a une telle abondance matérielle, on est tellement habitué qu'il y a des choses qui nous semblent normales, complètement naturelles, et qu'on peut être un peu blasé. Et je pense que, moi j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes nées dans un milieu occidental, aux États-Unis, ici en Europe, puis qui sont ensuite allées dans des pays où, dans la majorité des pays du monde, on vit dans des situations de pauvreté, et là on prend conscience de ce qu'on a, du nombre de bienfaits que l'on a et pour lesquels on peut être reconnaissant. Et dans nos vies spirituelles, on peut parfois aussi nous laisser habituer à la grâce de Dieu, à son pardon, et devenir un peu blasé en perdant de vue que ce sont des cadeaux. Mais oui, c'est Dieu, il doit me pardonner, Dieu il me fait grâce. Ce sont des dus, et ce cheminement-là, c'est le début d'une certaine ingratitude. Et je pense que face à ce risque-là, il y a un cantique un peu ancien qui avait été écrit par un pasteur américain à la fin du 19e siècle qui nous encourage dans son refrain à ne pas nous laisser aller à l'habitude et à l'ingratitude, mais plutôt à compter les bienfaits de Dieu, à les mettre tous devant nos yeux. On peut les mettre. Voilà. Et à prendre conscience de leur grand nombre. Et je pense que ça pourrait être une application concrète pour nous, dans les prochains jours, de prendre une feuille, puis de commencer à lister les bienfaits de Dieu, des bienfaits matériels, des bienfaits spirituels, et pour chacun de ces bienfaits, d'adresser nos remerciements, de dire notre gratitude à Dieu. L'humilité, la gratitude et l'aspiration. Dans le dernier verset que nous avons lu, Paul parle de l'attente du retour de Jésus. Il dit, vous avez tout reçu et vous attendez le retour de Jésus. C'est une manière de dire que, vous avez déjà tout en Christ, mais en même temps, vous n'êtes pas au bout, vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a encore une phase d'attente du retour de Jésus. Vous êtes sur le chemin, vous êtes en route. Et vous êtes en route, vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas assis. Et la troisième conséquence, l'aspiration, on la trouve exprimée dans cette même lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et vous savez quelle est cette voie par excellence ? 1 Corinthiens 13. Puisque c'est le dernier verset du chapitre 12, c'est l'amour. Ouais. Tout est reçu comme un cadeau de la part de Dieu, tout est grâce, et ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis à ne rien faire. En tout cas, Paul encourage ici On pourrait penser qu'il y a une certaine contradiction. Vous avez déjà tout reçu, dit-il au chapitre 1. Puis à la fin, il dit, mais aspirez aux dons les meilleurs. Oui, nous avons tout reçu. Tout ce que nous avons est une grâce de Dieu. Et en même temps, Dieu nous met en mouvement. Il veut nous mettre en mouvement. Aspirer, rechercher avec ardeur, par la prière, par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, Paul encourage les chrétiens à rechercher les dons spirituels et plus encore l'amour. L'amour qui est le cadre et qui est la condition indispensable pour exercer les dons spirituels dans l'Église. Ne pas être passif en pensant que la grâce va tout faire. Ça m'a fait repenser à cet homme dont on a affiché la photo, dont on a beaucoup parlé, en tout cas dans les milieux évangéliques, on va dire, ces deux dernières semaines. Billy Graham, ça m'a fait repenser à son ministère, à sa vie. Alors dans les églises protestantes, on se méfie, à juste titre, de mettre des hommes sur des piédestals. Je pense que c'est une bonne habitude de ne pas voir de saints chez nous, et Billy Graham n'est pas un saint. Mais je pense qu'on aurait tort de vouloir aussi se priver de voir dans la vie de certaines personnes, de certaines femmes, de certains hommes, des exemples. Alors tout n'est pas parfait, mais de voir certains exemples qui peuvent nous encourager, nous édifier. Et Billy Graham a commencé son ministère assez jeune. Et je pense qu'il aurait très bien pu rester sur sa chaise en se disant, si tout est grâce, si tout est un cadeau de Dieu, ça veut dire que tout dépend de Dieu. Moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à faire, si ce n'est à accepter ces cadeaux. Si c'est Dieu qui appelle dans son équipe, si c'est Dieu qui donne les dons, à quoi ça sert d'agir ? Et Billy Graham avait compris que la grâce de Dieu nous met aussi en mouvement. Dieu nous associe à sa mission envers le monde, vers l'extérieur. Et Billy Graham s'est engagé, il avait le don d'évangéliste de manière évidente. Il a pu annoncer l'évangile. Il a aussi joué un rôle important. Je pense qu'en France, on est redevable, notamment dans les années 80, lorsqu'il est venu en 86, à ce qu'il a obligé les différentes dénominations qui se regardaient parfois en chien de faïence à dépasser leurs différences. Alors, on n'est pas appelé à être des Billy Graham. Et je pense qu'aujourd'hui, le contexte a beaucoup changé par rapport à l'époque où il exerçait son ministère. On n'évangélise plus de la même manière, d'une certaine manière. Mais l'exhortation de Paul aux Corinthiens m'interpelle, et l'exemple de Billy Graham aussi. Quel est le don spirituel auquel j'aspire et que je demande à Dieu dans mes prières? Le don spirituel qui est là pour servir au sein de l'Église. Est-ce que j'oriente mes pensées et mon cœur vers ce chemin plus excellent que les dons spirituels, qu'est l'amour? Quel fruit de l'esprit est-ce que je cherche à développer dans ma vie pour le service des autres? Humilité, gratitude, aspiration, voilà ce que Paul, ce vers quoi il voulait orienter les Corinthiens à travers ce verset et puis à travers ces différents passages de cette lettre qu'il leur écrit. Et je pense que ce sont des attitudes de cœur qui sont encore valables pour nous aujourd'hui. Je remets juste trois phrases pour résumer le propos. La grâce implique l'humilité. Et au contraire, la vantardise implique que l'on est déjà arrivé, qu'on a tout compris, qu'on est au bout du chemin. La grâce conduit à la gratitude et l'autosuffisance, c'est-à-dire penser qu'on se suffit à soi-même, mène à l'orgueil. La grâce nous met en mouvement, alors que si on reste passif, notre vision elle est restreinte. Et je vous propose maintenant un temps de prière libre, parce que je pense que c'est un des meilleurs lieux pour exprimer, reconnaître la grandeur de Dieu, pour le remercier pour ses dons, pour lui demander, pour lui faire part de nos aspirations. Qu'on puisse prendre un temps de prière où chacun se sente libre d'élever la voix, d'élever une prière à Dieu.
Comme hier, j'ai lu dans la brochure que, comme une façon, ils ont tellement difficile que tu nous portes. Et après, Seigneur, nous devons affronter la réalité. Père éternel, je bénis ton nom parce que je sais que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu as dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu dis, celui qui est en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Je te bénis pour ta parole, Seigneur. Je te demande de nous protéger tous, de nous bénir, de garder nos familles, de nous délivrer du mal. Jésus, tu ne nous as pas caché que nous aurons des persécutions, mais toi, tu es avec nous. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Jésus, pour la gloire de ton nom et le désir de mon cœur, je veux te ressembler, je veux aimer mes ennemis. Et tu vois, Père éternel, c'est une chose que tu me demandes et j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me transformes à ta gloire, mon Dieu. Parce que tu dis, c'est à toi la vengeance. Jésus, viens régner dans mon cœur. Transforme-moi à ton image, mon Dieu. Amen.
Amen. Père, merci parce que par la mort et la résurrection de Jésus, tu m'as pardonné gratuitement et tu m'as donné le bagage nécessaire pour marcher avec toi. Pardon pour mes tentatives futiles de me rendre digne de ton amour et de ton approbation, alors que tu m'acceptes pleinement. Pardon pour ma tendance à tenter de vaincre le péché par mes propres forces, alors que tu m'as donné ton esprit qui agit en moi. Pardon de m'être cru meilleur que les autres. Pardon pour mon autosatisfaction et pour les moments où je pense être à la hauteur. Pardon de m'être contenté de t'offrir moins que le meilleur de mon temps, de mes talents, de mon service et de mon adoration. Pardon d'avoir pensé que je pouvais mettre notre relation en suspens et la reprendre à ma guise. Mais je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as déjà changé en moi. Merci parce que tu m'aides à progresser. Je te remets tous les aspects de ma vie afin que tu continues ton œuvre. Merci parce que tu t'es engagé à me transformer tout au long de mon existence et de façon définitive lorsque je te verrai face à face. Louange à toi, Père. Amen.